Chers amis, en ce temps béni de Pâques, laissons-nous aimanter par la lumière du Christ ressuscité. Tournons-nous dans la joie vers la lumière, cette lumière qui traverse toute la révélation biblique. Ne soyons pas étonnés si le premier acte créateur de Dieu fut la création de la lumière et sa séparation d'avec les ténèbres, comme nous le voyons dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, dans les premiers versets. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Tout d'abord que la lumière vient directement de Dieu. C'est sa parole qui crée la lumière et la lumière est la première créature de Dieu, ce qui manifeste son importance. Ensuite, il nous est dit que la lumière était bonne. Bien sûr, tout ce que Dieu crée porte le sceau de sa bonté. Et de fait, il en est ainsi pour la lumière. La lumière est comme saturée de la bonté divine. Elle en est son reflet, sa manifestation. Les ténèbres, quant à elles, ne semblent pas avoir été créées par Dieu directement, puisqu'il nous est dit, non pas que Dieu créa les ténèbres, mais que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Les ténèbres sont ici une absence de lumière. Elles n'ont pas de consistance propre. Elles se caractérisent par l'absence de lumière justement, l'absence de cette lumière qui est saturée de la bonté de Dieu. Il y a donc une séparation. Et cette séparation signifie métaphoriquement deux royaumes. Un royaume de lumière, dont Dieu est le Créateur, et un royaume des ténèbres, dont Dieu est absent. De nombreux pères de l'Église ont voulu voir dans ce premier jour de création de la lumière le jour de la création du monde spirituel des anges. Les anges étant des créatures de lumière, mais purement spirituelles. Quant à la séparation d'avec les ténèbres, cela signifie la séparation d'avec celui qui a été à l'origine de la rébellion des anges contre Dieu, à savoir Lucifer ou Satan, et qui est devenu, avec tous ceux qui l'ont suivi, des démons. Pourquoi les pères de l'Église disent-ils ceci? En effet, on pourrait très bien voir dans la création de la lumière notre jour physique et dans la création des ténèbres la nuit. Mais les pères de l'Église remarquent que c'est seulement le quatrième jour que les luminaires du ciel ont été créés, c'est-à-dire 4 jours après cette distinction initiale entre lumière et ténèbres. En effet, au quatrième jour, Dieu dit « qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel » pour séparer le jour et la nuit. Et ensuite, Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour, donc le soleil, et le petit luminaire comme puissance de la nuit, donc la lune, et les étoiles. Là, nous sommes bien dans le monde physique, alors qu'au premier jour, il semblerait que nous soyons dans le monde spirituel. Et cela corrobore d'ailleurs ce que dit l'Écriture et la tradition à propos de la rébellion initiale de Lucifer devenu prince des ténèbres, contre Dieu, lumière et créateur de la lumière. Oui, au commencement de la création, il y a eu ce drame de la rébellion d'une partie des anges contre Dieu. Et par cette rébellion, eux qui étaient lumière sont devenus ténèbres. Ils ont perdu l'éclat de la lumière divine dont ils étaient revêtus. Si la première création est une création de lumière, même si cela n'a pas duré très longtemps puisque les ténèbres ont tout de suite été là, nous savons qu'au terme de l'histoire du salut, il y aura une nouvelle création, comme saint Jean nous l'a prophétisé dans l'Apocalypse, au chapitre 21. Il voit en effet le Christ se manifester en gloire, annoncer le ciel nouveau et la terre nouvelle, et disant « Voici, je fais l'univers nouveau, je fais toutes choses nouvelles. » Et dans cette nouvelle création, il n'y aura plus de nuit, puisque Dieu lui-même en sera la lumière. La création tout entière émane donc de Dieu qui est lumière. Et la nouvelle création à venir se caractérisera elle aussi par la lumière, car il n'y aura plus de ténèbres en elle. La séparation d'avec les ténèbres sera totale et définitive. On passera alors à la lumière sans déclin, qui est Dieu lui-même, comme nous le dit saint Jean dans sa première lettre. Mais entre les deux se déroule l'histoire, et cette histoire est marquée par un conflit entre la lumière et les ténèbres. Et nous sommes pris dans ce combat. C'est le même combat que celui qui existe entre la vie et la mort. Combat dans lequel Dieu nous oriente, notamment dans le Deutéronome, lorsqu'il nous dit « Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. » Et ce choix de la vie auquel nous sommes invités, c'est le choix de la lumière. Saint Jean ne nous a-t-il pas dit dans son prologue « Et la vie était la lumière des hommes ». Il s'agit donc pour nous aussi de nous séparer des ténèbres, de rejeter les ténèbres qui sont dans nos cœurs pour laisser la lumière de Dieu y entrer, nous vivifier et nous transfigurer. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons que l'homme lui-même est bien l'enjeu du conflit. Son sort final se définit d'ailleurs en termes de lumière et de ténèbres comme en termes de vie et de mort. Soit il entrera dans la lumière de la vie, si ses œuvres sont bonnes, soit il sera rejeté dans les ténèbres de la géhenne, de la mort éternelle, si ses œuvres sont mauvaises. Mais commençons par nous tourner vers celui dont nous sommes l'image et la ressemblance. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de celui qui est la lumière ? Quelle dignité pour nous, n'est-ce pas ? Dieu est donc le créateur de la lumière, de cette lumière du premier jour qui émergea du chaos originel, mais aussi de la lumière des astres qui éclairent la terre, aussi bien le jour que la nuit. Et cette lumière, comme créature de Dieu, eh bien, elle obéit en tremblant, comme il nous est dit dans le livre de Baruch au chapitre 3. Dieu lance la lumière et elle prend sa course. Il la rappelle et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent joyeuses à leur poste de veille. Il les appelle et elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. Non seulement les astres obéissent à Dieu, mais ils participent de la grande louange cosmique qui monte vers Dieu, comme nous le rappelle le psaume 148. « Louez Dieu, soleil et lune, louez-le tous les astres de lumière ». Et dans le livre de Daniel au chapitre 3, nous avons encore cette même invitation. Et vous les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. Et vous la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Chacune des créatures que Dieu a faites dévoile quelque chose du mystère de Dieu. Et ainsi en est-il de la lumière. Elle est le reflet visible de sa gloire invisible. Et donc, comme nous le voyons dans toute la Bible, la lumière sert à évoquer les théophanies, c'est-à-dire les manifestations de Dieu dans notre monde. Dans le psaume 104, verset 2, la lumière apparaît comme le vêtement dans lequel Dieu se drape. Et lorsqu'il paraît, le prophète Habacuc nous dit « Son éclat est pareil à la lumière. Deux rayons sortent de ses mains. Là se tient cachée sa puissance. » La voûte céleste sur laquelle repose son trône est aussi éclatante comme le cristal, comme nous le révèle Ézéchiel. Les théophanies de Dieu sont donc environnées de lumière, mais elles peuvent aussi se présenter comme un feu. Or, le feu éclaire lui aussi, il illumine. Dans la Genèse, au chapitre 15, Dieu vient faire alliance avec Abraham, et cette alliance est scellée par le passage du Seigneur au milieu des animaux partagés. Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Plus tard, Moïse expérimente la présence du Seigneur dans le buisson ardent. Au chapitre 3 de l'Exode, nous lisons « L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. » Au chapitre 19, nous assistons encore à une théophanie où il nous est dit « Moïse fait sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il reste debout au bas de la montagne. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. » Au chapitre 24, nouvelle théophanie. « La nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur s'établit sur le mont Sinaï. » Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire du Seigneur était aux yeux des Israélites celui d'une flamme dévorante au sommet de la montagne. Dans le psaume 50, nous avons encore la description du Seigneur qui vient. Depuis Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, devant lui, un feu qui dévore. Nous avons là un langage symbolique qui exprime quelque chose du mystère de Dieu à partir des réalités visibles. Un lien se fait entre la présence divine et l'impression que fait sur l'homme une lumière éblouissante. À travers ce langage se dévoile l'essence même de Dieu. Dans le livre de la sagesse, nous voyons que Dieu est assimilé à la lumière. En effet, l'auteur évoque la sagesse. Or, cette sagesse partage l'intimité de Dieu. Nous voyons qu'elle possède sa toute-puissance et collabore à son œuvre créatrice. Et elle est déjà comme une prophétie de l'Esprit-Saint, à qui elle est assimilée, mais aussi et surtout du Christ. Saint Jean, comme saint Paul, s'emploieront à montrer que le Christ est précisément cette sagesse incarnée. Or, que nous dit Salomon, à qui les Juifs attribuent la paternité du livre de la sagesse ? La sagesse est un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Elle est un reflet de la lumière éternelle. Quand Salomon nous dit que la sagesse est un reflet de la lumière éternelle, cela veut dire qu'il identifie la lumière éternelle avec Dieu. Nous sommes là dans une grande proximité avec ce que saint Jean dira plus tard, quand, dans sa première lettre, il écrira « Dieu est lumière ». Le fait que Dieu apparaisse dans la lumière ou comme lumière dans toutes les théophanies de l'Ancien Testament comporte une signification existentielle pour ceux qui en bénéficient. Car soit cette lumière souligne la majesté de Dieu, mais d'un Dieu qui devient familier, comme nous le voyons avec la gloire de Dieu qui se révèle à Moïse, soit cette lumière, surtout quand elle se présente comme un feu, suscite la crainte. Dieu est alors moins le familier que le redoutable. Cependant, cette présence divine mystérieuse est vue comme désirable quand elle se présente sous la métaphore du visage lumineux de Dieu, car l'évocation de son visage ajoute une note rassurante de bienveillance. Dans le psaume 4, nous percevons toute l'aspiration du peuple saint de Dieu. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Oui, le peuple de Dieu cherche sa face. Et si Dieu montre un visage de lumière, alors c'est aussi un signe de bénédiction, de faveur. Dans le psaume 31, on lit encore « Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. » Nous percevons ici le lien entre la lumière de la face de Dieu et la manifestation de son amour. La lumière de la face de Dieu exprime d'une certaine façon l'amour de son cœur pour les hommes. Et dans le psaume 88, au verset 16, le psalmiste dit sa joie d'appartenir à ce peuple dont la vocation est de glorifier Dieu, de le louer. « Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. » Et oui, celui qui chante les louanges de Dieu, celui qui ovationne Dieu, marche de fait à la lumière de la face de Dieu. Et donc, cela ne nous étonnera pas d'entendre que le Seigneur invite Moïse à bénir les fils d'Israël selon cette formule. « Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. » Voyez, la plus belle des bénédictions que peut espérer le peuple de Dieu, le peuple hébreu, mais aussi le peuple chrétien, c'est précisément que Dieu tourne son visage vers nous, son visage de lumière. Et cela ne nous étonnera pas, puisque nous sommes faits à l'image et ressemblance de Dieu. Si nous tournons notre visage vers Dieu et que Dieu tourne son visage vers nous, alors il peut imprimer sur notre propre visage la lumière de son visage, sa ressemblance précisément. Nous sommes donc appelés à devenir lumineux de la lumière de Dieu. Nous sommes appelés à refléter sur nos visages la gloire du Seigneur, comme nous l'a dit saint Paul. La présence bienveillante de Dieu manifestée par la lumière de son visage est surtout une présence tutélaire, c'est-à-dire une présence de protection, une présence bonne, attentive, consolante, une présence aussi paternelle qui nous éduque. Et de fait, par sa loi, par ses 10 paroles, il éclaire les pas de l'homme, comme il nous est dit au livre des Proverbes au chapitre 6. Les préceptes du Seigneur sont une lampe, son enseignement une lumière, instruction et discipline sont un chemin de vie. Ici encore, nous voyons le lien entre lumière et vie. Dieu donne vie à ses enfants par la lumière de son enseignement et de ses préceptes. C'est pourquoi le psalmiste, plein de joie, s'exclame dans le psaume 119 « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » Dieu, par sa parole, est la lumière qui guide l'homme, qui l'arrache au péril et qui vient illuminer ses propres yeux, comme le psalmiste le redit dans le psaume 18 « Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, garde-moi du sommeil de la mort, dit-il encore dans le psaume 13. » Dieu est ainsi sa lumière et son salut, comme nous le dit encore le psaume 27. Mais cette vie dans la lumière de Dieu va dépendre de l'attitude de l'homme. En effet, si l'homme est juste, eh bien Dieu le conduit vers la joie d'un jour lumineux, comme en témoignent plusieurs passages de la Bible, notamment le prophète Isaïe au chapitre 58. « Si tu te prives pour l'affamé, si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. » Le psalmiste atteste cette vérité lorsqu'il dit aussi au psaume 97 « Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple une joie. » Quant au méchant, lui, il nous est dit qu'il trébuche dans les ténèbres. Nous attendions la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme des gens qui ont perdu la vie, note le prophète Isaïe. La méchanceté, l'impiété entraînent une forme d'aveuglement qui jette le pécheur dans les ténèbres. C'est ainsi que, dans le livre des Proverbes au chapitre 13, nous voyons la conséquence de l'injustice, perçue comme l'extinction d'une lampe. La lumière des justes est joyeuse. La lampe des méchants s'éteint. Et au chapitre 24, nous avons encore la même métaphore. Le mauvais n'a pas d'avenir. La lampe des méchants s'éteindra. Nous sommes bien plongés ici dans le symbolisme de la lumière et des ténèbres. En effet, lumière et ténèbres représentent finalement les deux sorts qui attendent l'homme. La vie et le bonheur, ou bien le malheur et la mort. Et quand le Seigneur dit à son peuple dans le Deutéronome « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives », il lui dit en fait « Choisis la lumière de mes préceptes, de ma parole, et tu auras le bonheur. Mais si tu refuses, tu seras toi-même l'artisan de l'extinction de la lumière de ta lampe. Et alors ne t'étonne pas d'être dans les ténèbres et de goûter l'amertume du malheur, et finalement la mort éternelle. » On ne peut pas dire que le Seigneur ne nous ait pas averti une multitude de fois dans la Bible, de sa volonté. Il nous a fait connaître la voie de la lumière. Mais il nous laisse libres, et c'est à nous de poser le choix de la lumière, le choix de vivre devant le visage de lumière du Seigneur, et de s'en laisser illuminer, afin que nous devenions nous aussi lumière à sa suite, à sa ressemblance. Si notre destinée personnelle peut osciller entre lumière et ténèbres, il n'est pas étonnant de retrouver ce symbolisme de la lumière et des ténèbres chez les prophètes dans une perspective eschatologique. Ce n'est pas seulement chacun de nous qui a le choix entre la lumière et les ténèbres, mais c'est toute l'histoire de l'humanité qui est traversée par ce choix. Et les prophètes nous annoncent le jugement de Dieu par rapport au choix que l'humanité aura fait. Souvenons-nous des Égyptiens dans l'Exode qui ont expérimenté le fléau des ténèbres, ce fléau de 3 jours qui est le signe prophétique annonciateur du jour du Seigneur qui viendra à la fin des temps, comme la Bible nous en parle dans plusieurs endroits. Le prophète Isaïe, au chapitre 13, évoque ce jour du Seigneur précisément comme un jour de ténèbres. Voici venir implacable le jour du Seigneur, la fureur et l'ardente colère, pour faire de la terre un lieu désolé, pour en supprimer les pécheurs. Les étoiles du ciel et ses constellations ne brilleront plus de leur lumière. Le soleil, dès son lever, s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa clarté. Je châtierai le monde pour sa méchanceté, et les impies pour leur faute. Je mettrai fin à l'orgueil des insolents et rabattrai l'arrogance des tyrans. Ce que le Seigneur a fait pour Pharaon et les Égyptiens qui s'entêtaient à s'opposer à la volonté de Dieu de laisser partir son peuple est comme une prophétie de ce qu'il fera à la fin des temps pour châtier les impies. Ceux qui auront choisi les ténèbres durant toute leur vie seront plongés dans les ténèbres comme conséquence de leur choix. Ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Par la bouche du prophète Jérémie, le Seigneur annonce encore à son peuple ce qu'il adviendra à la fin des temps. « Je regarde la terre et voici, c'est un chaos. Le ciel, il a perdu sa lumière. Je regarde les montagnes et voici, elles tremblent, toutes les collines sont secouées. Ainsi parle le Seigneur, toute la terre sera désolée, mais je n'en ferai pas l'extermination. Aussi la terre sera-t-elle en deuil ?» Et là-haut, le ciel s'obscurcira. Dans un autre passage, Jérémie se fait l'écho de la douleur de Dieu. « Rendez gloire au Seigneur votre Dieu, avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, dit-il, avant que vos pieds ne s'entrechoquent dans les montagnes du crépuscule. Vous attendrez la lumière, il la changera en ombre de mort, la transformera en sombre nuée. Si vous n'écoutez pas, mon âme pleurera en secret sur votre orgueil. » Voyez, Dieu ne prend pas plaisir à châtier les hommes. Et les larmes de Jérémie nous disent quelque chose de la tristesse de Dieu devant le choix mauvais de ses enfants, qui l'oblige à manifester sa justice après avoir proposé sa miséricorde sans qu'elle soit accueillie. Le prophète Amos renchérit à propos de ce jugement qui va toucher non seulement Israël, mais toutes les nations. Ce jour-là, oracle du Seigneur Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Le prophète Joël annonce aussi ce jour du Seigneur où la lumière s'éteindra. Devant lui, la terre tremble, le ciel est ébranlé. Le soleil et la lune se sont obscurcis et les étoiles ont retiré leur clarté. Il est grand le jour du Seigneur et très redoutable. Qui peut l'affronter? Et maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Et puis il annonce encore, le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. À écouter toutes ces prophéties bibliques, nous comprenons que le jour du Seigneur sera un jour de ténèbres pour le monde pécheur. Le monde enténébré reflétera la noirceur des cœurs et des âmes. Mais sur les humbles se lèvera la lumière du Seigneur. Car de fait, si le jour du Seigneur est ténèbre pour le monde pécheur et pour ceux qui sont dans l'orgueil, il sera jour de joie, de délivrance pour le reste des justes, pauvres et humiliés. Alors comme le prophétisait Isaïe au chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres verra une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière resplendira. Le jour du Seigneur apparaît donc comme un jour de purification, où Dieu viendra encore une fois, comme il l'a fait à l'origine du monde, séparer la lumière des ténèbres. Là où aujourd'hui les ténèbres semblent victorieuses, le Seigneur annonce un jour nouveau où les ténèbres seront anéanties et où la lumière de Dieu brillera à nouveau sur la création. Il annonce en effet la clarté d'un jour merveilleux. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures, nous dit Isaïe. Après le temps de l'obscurcissement du soleil, de la lune et des étoiles, lors du jour du Seigneur, Viendra donc un temps nouveau où la lumière irradiera infiniment plus qu'auparavant. Zacharie le prophète évoque ce temps béni. Ce sera un jour unique. Le Seigneur le connaît. Il n'y aura pas le jour puis la nuit, mais à l'heure du soir, la lumière. Autrement dit, il n'y aura plus d'alternance entre le jour et la nuit. Mais la création sera tout entière illuminée par une lumière éternelle, comme nous l'annonce le prophète Malachie. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Cependant, cette clarté nouvelle qui se lèvera sur la nouvelle Jérusalem, comme Isaïe l'annonce au chapitre 60, sera d'une autre nature que celle du temps actuel. En effet, c'est désormais le Dieu vivant qui illuminera lui-même les siens. Le jour, tu n'auras plus le soleil comme lumière, et la clarté de la lune ne t'illuminera plus. Le Seigneur sera pour toi lumière éternelle. Ton Dieu sera ta splendeur, annonce le Seigneur par la bouche d'Isaïe. Dans le livre de l'Apocalypse, le serviteur de Dieu, qui est le Christ, est aussi décrit comme la source de la lumière qui éclaire la Jérusalem nouvelle. Saint Jean décrit cette ville merveilleuse. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leurs trésors. Ses portes resteront ouvertes le jour, car il n'y aura pas de nuit. Ainsi, le monde sorti, né de la lumière de Dieu, retournera à la lumière, comme monde transfiguré. La création tout entière et l'humanité sont appelées à cette transfiguration, quand les ténèbres auront disparu et que la victoire de Dieu se manifestera dans toute sa plénitude à la fin des temps. Quelle espérance cela ne doit-il pas nous donner ? La lumière nous a créés, elle nous enveloppe, elle nous conduit, elle nous attend et elle nous transfigurera. Et nous participerons dans la joie à la lumière de gloire du Seigneur.